Daphnis et Chloé, pastorale grecque du 2-3e siècle après Jésus-Christ, traduite par Jacques Amyot, revue plus tard par Paul-Louis Courier. Livre premier. En l'île de Lesbos, chassant dans un bois consacré aux nymphes, je vis la plus belle chose que j'ai vue en ma vie, une image peinte, une histoire d'amour. Le parc de soi-même était beau, fleurs n'y manquaient, arbres épais, fraîches fontaines qui nourrissaient les arbres et les fleurs. Mais la peinture, plus plaisante encore que tout le reste, était d'un sujet amoureux et de merveilleux artifices, tellement que plusieurs, même étrangers, qui en avaient ouï parler, venaient là, dévots aux nymphes, et curieux de voir cette peinture. Femmes s'y voyaient, accouchant, autres enveloppant de langes des enfants, de petits poupards exposés à la merci de fortune, bêtes qui les nourrissaient, pâtres qui les enlevaient, jeunes gens unis par amour, des pirates en mer, des ennemis à terre, qui couraient le pays avec bien d'autres choses, et toutes amoureuses, lesquelles je regardais en si grand plaisir, et les trouvais si belles, qu'il me prit envie de les coucher par écrit. S'y cherchait quelqu'un qui me les donnât à entendre par le menu, et ayant le tout entendu, en composait ces quatre livres, que je dédie comme une offrande à Amour, aux nymphes et à Pan, espérant que le conte en sera agréable à plusieurs manières de gens, pour ce qu'il peut servir à guérir le malade, consoler le dolent, remettre en mémoire de ses amours celui qui autrefois aura été amoureux, et instruire celui qui ne l'aura encore point été. Car jamais ne fut ni ne sera qui se puisse tenir d'aimer tant qu'il y aura beauté au monde et que les yeux regarderont. Nous-mêmes, veuille le Dieu que sage, puissions ici parler des autres. Mytilène est ville de Lesbos, belle et grande, coupée de canaux par l'eau de la mer qui flue dedans et tout alentour, ornée de ponts de pierre, blanche et polie. À voir, vous diriez, non une ville, mais comme un amas de petites îles. Environ 8 ou 9 lieues, loin de cette ville de Mytilène, un riche homme avait une terre. Plus bel héritage n'était en toute la contrée. Bois remplis de gibier, coteaux revêtus de vignes, champs à porter froment, pâturage pour le bétail, et le tout au long de la marine, où le flot lavait une plage étendue de sable fin. En cette terre, un chevrier nommé Lamon, gardant son troupeau, trouva un petit enfant qu'une de ses chèvres allaitait, et voici la manière comment. Il y avait un hallier fort épais de ronces et d'épines, tout couvert par-dessus de lierre, et au-dessous la terre feutrée d'herbes menues et délicates, sur laquelle était le petit enfant gisant. Là, s'encourait cette chèvre, de sorte que bien souvent on ne savait ce qu'elle devenait, et abandonnant son chevreau, se tenait auprès de l'enfant. Pitié vint à Lamon du chevreau délaissé. Un jour, il prend garde par où elle allait. Sur le chaud du midi, la suivant à la trace, il voit comme elle entrait sous le hallier doucement et passait ses pattes tout beau par-dessus l'enfant, peur de lui faire mal. Et l'enfant prenait à belle main son pis comme si c'eût été mamelle de nourrice. Surpris, ainsi qu'on peut penser, il approche et trouve que c'était un petit garçon, beau, bien fait, et en plus riche maillot que convenir ne semblait à tel abandon, car il était enveloppé d'un mantelet de pourpre avec une agrafe d'or, près de lui avait un petit couteau à manche d'ivoire. Si fut entre deux d'emporter ces enseignes de reconnaissance, sans autrement se soucier de l'enfant. puis ayant honte de ne se montrer du moins aussi humain que sa chèvre, quand la nuit fut venue, il prend tout, et les joyaux, et l'enfant, et la chèvre, qu'il conduisit à sa femme Myrtale, laquelle, ébahie, s'écria « Si à cette heure les chèvres faisaient de petits garçons !» Et l'amant lui conta tout, comme il avait trouvé gisant et la chèvre le nourrissant, et comment il avait eu honte de le laisser périr. Elle fut bien d'avis que vraiment il ne l'avait pas dû faire. Et tous deux d'accord de l'élever, ils serrèrent ce qui s'était trouvé quant et lui, disant partout qu'il est à eux, et afin que le nom même sentît mieux son pasteur, l'appelèrent Daphnis. À quelque temps de là, un berger des environs, qui avait nom Dryas, vit une toute pareille chose et trouva semblable aventure. Un antre était en ce canton qu'on appelait l'antre des nymphes, grande et grosse roche, creuse par le dedans, toute ronde par le dehors, et dedans, y avait les figures des nymphes, taillées de pierre, les pieds sans chaussures, les bras nus jusque aux épaules, les cheveux épars autour du col, ceintes sur les reins, toutes ayant le visage riant et la contenance telle comme si elles eussent ballé ensemble. Du milieu de la roche et du plus creux de l'antre sourdait une fontaine, dont l'eau, qui s'épandait en forme de bassin, nourrissait là, au-devant, une herbe fraîche et touffue, et s'écoulait à travers le beaupré verdoyant. On voyait, attaché au roc, force seille à traire le lait, force flûtes et chalumeaux, offrandes des anciens pasteurs. En cette caverne, une brebis, qui naguère avait agnelé, allait si souvent que le berger la crut perdue plus d'une fois. La voulant châtier, afin qu'elle demeurât au troupeau, comme devant à paître avec les autres, il coupe un sion de francosier, dont il fit un collet en manière de lac courant, et s'en venait pour l'attraper au creux du rocher. Mais quand il y fut, il trouva autre chose. Il voit la brebis donner son pis à un enfant, avec amour et douceur, tel que mère autrement n'eût su faire. Et l'enfant, de sa petite bouche belle et nette, pour ce que la brebis lui léchait le visage après qu'était saoul de téter, prenait sans un seul cri, puis l'un et puis l'autre bout du pis, de grand appétit. Cet enfant était une fille, et avec elle aussi, pour marques à la pouvoir un jour connaître, on avait laissé une coiffe de réseau d'or, des patins dorés et des chaussettes brodées d'or. Dryas, estimant cette rencontre venir expressément des dieux, et instruite à la pitié par l'exemple de sa brebis, enlève l'enfant dans ses bras, met les joyaux dans son bissac, non sans faire prier aux nymphes qu'à bonne heure put-il élever leur pauvre petite suppliante. Puis, quand vint l'heure de ramener son troupeau au tecte, retournant au lieu de sa demeurance champêtre, conta sa femme ce qu'il avait vu, lui montre ce qu'il avait trouvé, disant qu'elle ne ferait que bien si elle voulait de là en avant tenir cet enfant pour sa fille et comme sienne la nourrir, sans rien dire de telle aventure. Nappé, c'était le nom de la bergère, Nappé, de ce moment, fut mère à la petite créature et tant l'aima qu'elle paraissait proprement jalouse de surpasser en cela sa brebis, qui toujours l'allaitait de son pis. Et pour mieux faire croire qu'elle fut sienne, lui donna aussi un nom pastoral, la nommant Chloé. Ces deux enfants, en peu de temps, devinrent grands, et d'une beauté qui semblait autre que rustique. Et sur le point que l'un fut parvenu à l'âge de 15 ans et l'autre de 2 mois, l'amant et Dryas, en une même nuit, songèrent tous deux un tel songe. Il leur fut avis que les nymphes, celle-là même de l'antre où était cette fontaine Éoudrias avait trouvé la petite fille, livrait Daphnis et Chloé aux mains d'un jeune garçonnet, fort vif et beau à merveille, qui avait des ailes aux épaules, portait un petit arc et de petites flèches, et les ayant touchés tous deux d'une même flèche, commandait à l'un paître de là en avant les chèvres et à l'autre les brebis. Telle vision, au bon pasteur présageant le sort à venir de leur nourrisson, bien leur fâchait qu'ils fussent aussi destinés à garder les bêtes, car jusque-là ils avaient cru que les marques trouvées quant à eux leur promettaient meilleure fortune, et aussi les avaient élevées plus délicatement qu'on ne fait les enfants des bergers, leur faisant apprendre les lettres et tout le bien et honneur qui se pouvait en un lieu champêtre. S'ils résolurent toutefois d'obéir aux dieux, touchant l'état de ceux qui par leur providence avaient été sauvés, et après avoir communiqué leurs songes ensemble, et sacrifié en la caverne à ce jeune garçonnet qui avait des ailes aux épaules, car il n'en eût su dire le nom, les envoyèrent au champ, leur enseignant toutes choses que bergers doivent savoir, comment il faut faire paître les bêtes avant midi, et comment, après que le chaud est passé, à quelle heure convient les mener boire, à quelle heure les ramener au tecte, à quoi il est besoin user de la houlette, à quoi de la voix seulement. Eux prirent cette charge avec autant de joie, comme si c'eût été quelque grande seigneurie, et aimaient leurs chèvres et brebis trop plus affectueusement que n'est la coutume des bergers, pour ce qu'elle se sentait tenue de la vie à une brebis, et lui, de sa part, se souvenait qu'une chèvre l'avait nourrie. Or était-il, lors environ le commencement du printemps, que toutes fleurs sont en vigueur, celles des bois, celles des prés et celles des montagnes. Aussi Jacques commençait à souillir par les champs, bourdonnement d'abeilles, gazouillement d'oiseaux, bêlement d'agneaux nouveau-nés. Les troupeaux bondissaient sur les collines, les mouches à miel murmuraient par les prairies, les oiseaux faisaient résonner les buissons de leurs champs. Toutes choses à donc, faisant bien leur devoir de s'égayer à la saison nouvelle, eux aussi, tendres, jeunes d'âge, se mirent à imiter ce qu'ils entendaient et voyaient. Car entendant chanter les oiseaux, ils chantaient. Voyant bondir les agneaux, ils sautaient à l'envi. Et comme les abeilles allaient, cueillant des fleurs, dont ils jetaient les unes dans leurs seins, et les autres arrangeaient des chapelets pour les nymphes, et toujours se tenaient ensemble, toute besogne faisaient en commun, paissant leurs troupeaux l'un près de l'autre. Souvent fois, Daphnis allait faire revenir les brebis de Chloé, qui s'étaient un peu loin écartées du troupeau. Souvent, Chloé retenait les chèvres trop hardies, voulant monter au plus haut des rochers droits et coupés. Quelquefois, l'un tout seul gardait les deux troupeaux pendant le temps que l'autre vaquait à quelque jeu. Leur jeu était jeu de bergers et d'enfants. Elle, s'en allant dès le matin cueillir quelque part du menu jonc, en faisait une cage à cigales, et cependant ne se souciait aucunement de son troupeau. Lui, d'autre côté, ayant coupé des roseaux, en pertuisait les jointures, puis les collait ensemble avec de la cire molle et s'apprenait à en jouer, bien souvent jusqu'à la nuit. Quelquefois, ils partageaient ensemble leur lait ou leur vin, et de tout vivre qu'ils avaient porté du logis se faisaient part l'un à l'autre. Bref, on eût plutôt vu les brebis dispersées, paissant chacune à part, que l'un de l'autre séparés Daphnis et Chloé. Or, parmi tels jeux enfantins, Amour leur voulut donner du souci. En ces quartiers, il y avait une louve, laquelle, ayant naguère louveté, ravissait des autres troupeaux de la proie à foison dont elle nourrissait ses louveteaux. Et pour ce, gens assemblés des villages d'alentour faisaient la nuit des fosses d'une brasse de largeur et quatre de profondeur, et la terre qu'ils en tiraient, non toute, mais la plupart, l'épandait au loin. puis étendant sur l'ouverture des verges longues et grêles, les couvrait en semant par-dessus le demeurant de la terre, afin que la place parût toute pleine et unie comme devant, en sorte que, s'il n'eût passé par-dessus qu'un lièvre en courant, il eût rompu les verges qui étaient, par manière de dire, plus faibles que brins de paille, et lors, eût-on bien vu que ce n'était point terre ferme, mais une feinte seulement. Ayant fait plusieurs telles fosses en la montagne et en la plaine, ils ne purent prendre la louve, car elle sentit l'embûche. Mais furent cause que plusieurs chèvres et brebis périrent, et presque Daphnis lui-même partait l'inconvénient. Deux boucs s'échauffèrent de jalousie à cosser l'un contre l'autre, et si rudement se heurtèrent que la corne de l'un fut rompue, de quoi, sentant grande douleur, celui qui était écorné se mit en bramant à fuir, et le victorieux à le poursuivre, sans le vouloir laisser en paix. Daphnis fut marri de voir ce bouc mutilé de sa corne, et se courroussant à l'autre, qui encore n'était content de l'avoir aussi laitement accoutré, s'y prend en son poing sa houlette et s'en court après ce poursuivant. De cette façon, le bouc fuyant les coups, et lui le poursuivant en courroux, guère ne regardait devant eux, et tous deux tombèrent dans un de ces pièges, le bouc le premier, et Daphnis après, ce qui l'en garda de se faire mal, pour ce que le bouc soutint sa chute. Or, au fond de cette fosse, il attendait, si quelqu'un viendrait point l'en retirer, et pleurait. Chloé, ayant de loin vu son accident, accourt, et voyant qu'il était en vie, s'en va vite appeler au secours un bouvier de là auprès. Le bouvier vint, il eut bien voulu avoir une corde à lui tendre, mais ils n'en purent trouver brin. Ses cheveux étaient noirs comme ébène, tombant sur son col bruni par le hâle. On eût dit que c'était leur ombre qui en obscurcissait la teinte. Chloé le regardait, et lors elle s'avisa que Daphnis était beau. Et comme elle ne l'avait point jusque-là trouvé beau, elle s'imagina que le bain lui donnait cette beauté. Elle lui lava le dos et les épaules, et en le lavant, sa peau lui sembla si fine et si douce que plus d'une fois, sans qu'il en vît rien, elle se toucha elle-même, doutant à part soi qui des deux avait le corps plus délicat. Comme il se faisait tard pour lors, étant déjà le soleil bien bas, ils ramenèrent leurs bêtes aux étables, et de là en avant, Chloé n'eut plus autre chose en l'idée que de revoir Daphnis se baigner. Quand ils furent le lendemain de retour au pâturage, Daphnis, assis sous le chêne à son ordinaire, jouait de la flûte et regardait ses chèvres couchées qui semblaient prendre plaisir à si douce mélodie. Chloé, pareillement assise auprès de lui, voyait paître ses brebis, mais plus souvent elle avait les yeux sur Daphnis jouant de la flûte, et alors aussi elle le trouvait beau. Et pensant que ce fut la musique qui le faisait paraître, ainsi, elle prenait la flûte après lui pour voir d'être belle comme lui. Enfin, elle voulut qu'il se baignât encore, et pendant qu'il se baignait, elle le voyait tout nu. Et le voyant, elle ne se pouvait tenir de le toucher. Puis, le soir, retournant au logis, elle pensait à Daphnis nu, et ce penser-là était commencement d'amour. Bientôt, elle n'eut plus souci ni souvenir de rien que de Daphnis, et de rien ne parlait que de lui. Ce qu'elle éprouvait, elle n'eût su dire ce que c'était, simple fille nourrie au champ, et n'ayant ouï en sa vie le nom seulement d'amour. Son âme était oppressée. Malgré elle, bien souvent, ses yeux s'emplissaient de larmes. Elle passait les jours sans prendre de nourriture, les nuits sans trouver de sommeil. Elle riait et puis pleurait. Elle s'endormait et aussitôt se réveillait en sursaut. Elle pâlissait et au même instant son visage se colorait de feu. La génisse piquée du temps n'est point si follement agitée. De fois à autre, elle tombait en une sorte de rêverie et toute seulette discutait ainsi. « À cette heure, je suis malade et ne sais quel est mon mal. Je souffre et n'ai point de blessure. Je m'afflige et si n'ai perdu pas une de mes brebis, je brûle, assise sous une ombre si épaisse. Mais combien de fois les ronces m'ont égratigné et je ne pleurais pas. Combien d'abeilles m'ont piqué de leur aiguillon et j'en étais bientôt guéri. Il faut donc dire que ce qui m'atteint au cœur cette fois est plus poignant que tout cela. De vrai, Daphnis est beau, mais il ne l'est pas seul. Ses joues sont vermeilles, aussi sont les fleurs. Il chante, aussi font les oiseaux. Pourtant, quand j'ai vu les fleurs ou entendu les oiseaux, je n'y pense plus après. Ah ! Que ne suis-je sa flûte pour toucher ses lèvres ? Que ne suis-je son petit chevreau pour qu'il me prenne dans ses bras ? Oh, méchante fontaine, qui l'a rendu si beau, ne peux-tu m'embellir aussi ? Oh, nymphe, vous me laissez mourir, moi que vous avez vu naître et vivre ici parmi vous. Qui, après moi, vous fera des guirlandes et des bouquets, et qui aura soin de mes pauvres agneaux ? Et de toi aussi, ma jolie cigale, que j'ai eu tant de peine à prendre. Hélas, que te sert maintenant de chanter au chaud du midi? Ta voix ne peut plus m'endormir sous les voûtes de ces antres. Daphnis m'a ravi le sommeil. Ainsi disait et soupirait la dolente jouvencelle, cherchant en soi-même que c'était d'amour dont elle sentait les feux, et s'y n'en pouvait trouver le nom. Mais Dorcon, ce bouvier, qui avait retiré de la fosse Daphnis et le bouc, jeune gars, à qui le premier poil commençait à poindre, étant jadé cette rencontre férue de l'amour de Chloé, se passionnait de jour en jour plus vivement pour elle, et tenant peu de compte de Daphnis, qui lui semblait un enfant, fit dessein de tout tenter, ou par présent, ou par ruse, ou à l'aventure par force, pour avoir contentement, instruit qu'il était, lui, du nom et aussi des œuvres d'amour. Ses présents furent d'abord à Daphnis une belle flûte, ayant ses cannes unies avec du laiton au lieu de cire, à la fillette une peau de faon, toute marquetée de taches blanches, pour s'en couvrir les épaules. Puis, croyant par de tels dons s'être fait l'ami de l'un et de l'autre, bientôt il négligea Daphnis, mais à Chloé, chaque jour, il apportait quelque chose. C'était tantôt fromage gras, tantôt fruits en maturité, tantôt chapelet de fleurs nouvelles, ou bien des oiseaux qu'il prenait au nid. Même une fois, il lui donna un gobelet doré sur les bords et une autre fois un petit veau qu'il lui porta de la montagne. Elle, simple et sans défiance, ignorant que tous ses dons fussent amorce amoureuse, les prenait bien volontiers et en montrait grand plaisir. Mais son plaisir était moins d'avoir que donner à Daphnis. Et un jour Daphnis, car si fallait-il qu'il connût aussi la détresse d'amour, prit querelle avec Dorcon. Il contestait de leur beauté devant Chloé, qui les jugea, et un baiser de Chloé fut le prix destiné au vainqueur, là où Dorcon le premier parla. « Moi, dit-il, je suis plus grand que lui. Je garde les bœufs, lui les chèvres. Or, autant les bœufs valent mieux que les chèvres, d'autant vaut mieux le bouvier que le chevrier. » Je suis blanc comme le lait, blond comme gerbe à la moisson, frais comme la feuillée au printemps. Aussi est-ce ma mère, et non pas quelque bête, qui m'a nourri enfant. Il est petit, lui, chétif, n'ayant de barbe non plus qu'une femme, le corps noir comme peau de loup. Il vit avec les boucs, ce n'est pas pour sentir bon. Et puis, chevrier, pauvre air, il n'a pas vaillant, tant seulement de quoi nourrir un chien. On dit qu'il a têté une chèvre. Oh, je le crois, ma foi, n'est pas merveille, si nourrisson de biques, il a l'air d'un biquet. Ainsi dit Dorcon et Daphnis. Oui, une chèvre m'a nourri, de même que Jupiter, et je garde les chèvres et les rends meilleurs que ne seront jamais les vaches de celui-ci. Je mène paître les boucs, et s'il n'est rien de leur senteur, non plus que Pan, qui toutefois a plus de boucs en soi que d'autres natures. Pour vivre, je me contente de lait, de fromage, de pain bis et de vin clairet, qui sont mes boissons de pâtre, comme nous, et les partageant avec toi, Chloé, il ne me se soucie de ce que mangent les riches. Je n'ai point de barbe, ni Bacchus non plus. Je suis brun, l'hyacinthe et noir, et s'il vaut mieux pourtant Bacchus que les satyres, et préfère-t-on l'hyacinthe au lys, celui-là est roux comme un renard, blanc comme une fille de la ville, et le voilà tantôt barbu comme un bouc. Si c'est moi que tu baises, Chloé, tu baiseras ma bouche. Si c'est lui, tu baiseras ses poils qui lui viennent aux lèvres. Qu'il te souvienne, pastourelle, qu'à toi aussi une brebis t'a donné son lait. Et cependant, tu es belle. À ce mot, Chloé ne put le laisser achever. Mais, en partie pour le plaisir qu'elle eut de s'entendre louer, et aussi que de longtemps elle avait envie de le baiser, sautant en pied d'une gentille et toute naïve façon, elle lui donna le prix. Ce fut bien un baiser innocent et sans art. Toutefois, c'était assez pour enflammer un cœur dans ses jeunes années. Dorcon, se voyant vaincu, s'enfuit dans le bois pour cacher sa honte et son déplaisir, et depuis cherchait autre voie à pouvoir jouir de ses amours. Pour Daphnis, il était comme s'il eût reçu, non pas un baiser de Chloé, mais une piqûre envenimée. Il devint triste en un moment, il soupirait, il frissonnait, le cœur lui battait, il pâlissait quand il regardait la Chloé, puis tout à coup une rougeur lui couvrait le visage. Pour la première fois alors, il admira le blond de ses cheveux, la douceur de ses yeux et la fraîcheur d'un teint plus blanc que la jonchée du lait de ses brebis. On eût dit que de cette heure il commençait à voir et qu'il avait été aveugle jusque-là. Il ne prenait plus de nourriture que comme pour en goûter, de boisson seulement que pour mouiller ses lèvres. Il était pensif, muet, lui auparavant plus babillard que les cigales. Il restait assis, immobile, lui qui avait accoutumé de sauter plus que ses chevreaux. Son troupeau était oublié, sa flûte par terre abandonnée. Il baissait la tête comme une fleur qui se penche sur sa tige. Il se consumait, il séchait comme les herbes au temps chaud, n'ayant plus de joie, plus de babille. Fort qu'il parlât à elle ou d'elle. S'il se trouvait seul aucune fois, il allait devisant en lui-même que me fait donc le baiser de Chloé? Ses lèvres sont plus tendres que roses, sa bouche plus douce qu'une gaufre à miel, et son baiser est plus amer que la piqûre d'une abeille. J'ai bien baisé souvent mes chevreaux, j'ai baisé de ces agneaux à elle qui ne faisait encore que naître, et aussi ce petit veau que lui a donné Dorcon, mais ce baiser ici est tout autre chose. Le pouls m'en bat, le cœur m'en tressaut, mon âme en languit. Et pourtant, je désire le baiser de rechef. Oh, mauvaise victoire! Oh, étrange mal dont je ne saurais dire le nom. Chloé avait-elle goûté de quelque poison avant que de me baiser? Mais comment n'en est-elle point morte? Oh, comme les hirondelles chantent et ma flûte ne dit mot, comme les chevreaux sautent et je suis assis, comme toutes fleurs sont en vigueur et je n'en fais point de bouquet ni de chapelet, la violette et le muguet fleurissent, Daphnis se fane. Dorcon, à la fin, paraîtra plus beau que moi. Voilà comment se passionnait le pauvre Daphnis, et les paroles qu'il disait, comme celui qui l'or premier expérimentait, les étincelles d'amour. Mais Dorcon, ce gars, ce bouvier amoureux aussi de Chloé, prenant le moment que Dryas plantait un arbre pour soutenir quelques vignes, comme il le connaissait déjà, d'alors que lui, Dryas, gardait les bêtes au champ, le vient trouver avec de beaux fromages gras, et d'abord il lui donna ses fromages. Puis, commençant à entrer en propos par leur ancienne connaissance, fit tant qu'il tomba sur les termes du mariage de Chloé, disant qu'il la veut prendre à femme, lui promet pour lui de beaux présents, comme bouvier ayant de quoi. Il lui voulait donner, dit-il, une couple de bœufs de labour, 4 ruches d'abeilles, 50 pieds de pommiers, un cuir de bœuf à semeler soulier, et par chaque an un veau, tout prêt à sevrer, tellement que, touché de son amitié, alléché par ses promesses, Dryas lui cuit d'apresse accorder le mariage. Mais, songeant puis après que la fille était née pour bien plus grand parti, et craignant qu'un jour, si elle venait à être reconnue, et ses parents, à savoir que pour la friandise de tel don, il l'eût mariée en si bas lieu, on ne lui en voulut mal de mort, il refusa toutes ses offres et les conduisit en le priant de lui pardonner. Par ainsi Dorcon, se voyant pour la deuxième fois frustré de son espérance, et encore qu'il avait pour néant perdu ses bons fromages gras, délibéra, puisqu'autrement ne pouvait, la première fois qu'il la trouverait seule à seule, mettre la main sur Chloé. Pour à quoi parvenir? S'étant avisé qu'ils menaient l'un après l'autre boire leurs bêtes, Chloé un jour et Daphnis l'autre, il usa d'une finesse de jeune pâtre qu'il était. Il prend la peau d'un grand loup qu'un sien taureau, en combattant pour la défense des vaches, avait tué avec ses cornes, et se l'étend sur le dos, si bien que les jambes de devant lui couvraient les bras et les mains, celles de derrière lui pendaient sur les cuisses jusqu'aux talons, et la hure le coiffait en la forme même et manière du cabas d'un homme de guerre. S'étant ainsi fait loup tout au mieux qu'il pouvait, il s'en vient droit à la fontaine où buvaient chèvres et brebis après qu'elles avaient pâturé. Or était cette fontaine en une vallée assez creuse et toute la place alentour pleine de ronces et d'épines, de chardons et bas genévriers, tellement qu'un vrai loup s'y fut bien aisément caché. Dorcon se musse là-dedans entre ces épines, attendant l'heure que les bêtes vinssent boire, et avait bonne espérance qu'il effraierait Chloé sous cette forme de loup et la saisirait au corps pour en faire à son plaisir. Tantôt après, elle arriva. Elle amenait boire les 2 troupeaux, ayant laissé Daphnis coupant de la plus tendre ramée verte pour ses chevreaux après pâture. Les chiens, qui leur aidaient à la garde des bêtes, suivaient. Et comme naturellement ils chassent, mettant le nez partout, ils sentirent Dorcon se remuer, voulant assaillir la fillette. S'ils se prennent à aboyer, se ruent sur lui comme sur un loup, et l'environnant qu'il n'osait encore, tant il avait de peur, se dresser tout à fait sur ses pieds, mordent en la furie la peau de loup et tiraient à belles dents. Lui, d'abord honteux d'être reconnu et défendu quelque temps de cette peau qui le couvrait, se tenait tapis contre terre, dans le hallier, sans dire mot. Mais quand Chloé, apercevant au travers de ses broussailles, oreilles droites et poils de bête, appela tout épouvantée Daphnis au secours, et que les chiens, lui ayant arraché sa peau de loup, commencèrent à le mordre lui-même à bon escient, lors il se prit à crier si haut qu'il put, priant Chloé et Daphnis, qui là étaient accourus, de lui vouloir être en aide, ce qu'ils firent, et avec leur sifflement accoutumé, eurent un continent apaiser les chiens. Puis ils amenèrent à la fontaine le malheureux Dorcon, qui avait été mort et aux cuisses et aux épaules. Lui lavèrent ses blessures où les dents l'avaient atteint, et puis lui mirent dessus de l'écorce d'orme mâchée, étant tous deux si peu rusés et si peu expérimentés aux hardies entreprises d'amour, qu'ils estimèrent que cette embûche de Dorcon avec sa peau de loup ne fut que jeu seulement. Au moyen de quoi, ils ne se courroucèrent point à lui, mais le réconfortèrent et le reconvoyèrent quelque espace de chemin en le menant par la main. Et lui, qui avait été en si grand danger de sa personne et que l'on avait recoup de la gueule non du loup, comme il se dit communément, mais des chiens, s'en alla panser les morsures qu'il avait par tout le corps. Daphnis et Chloé, cependant, jusque à nuit close, travaillèrent après leurs chèvres et brebis, qui, effrayés de la peau de loup, effarouchés d'ouïr si fort aboyer les chiens, fuyaient les unes à la cime des plus hauts rochers, les autres au plus bas des plages de la mer, tout au demeurant bien apprises de venir à la voix de leur pasteur, se ranger au son du flageolet, s'amasser ensemble en oyant seulement battre des mains. Mais la peur leur avait fait tout oublier, et après les avoir suivis à la trace comme des lièvres et à grand-peine retrouvés, les ramenèrent toutes au tecte. Puis s'en allèrent aussi reposer, là où ils dormirent cette seule nuit de bon sommeil. Car le travail qu'ils avaient pris leur fut un remède pour l'heure aux mésaises d'amour. Mais, revenant le jour, ils eurent même passion qu'auparavant, joie à se revoir, peine à se quitter. Ils souffraient, ils voulaient quelque chose, et ne savaient ce qu'ils voulaient. Cela seulement savaient-ils bien, l'un que son mal était venu d'un baiser, et l'autre d'un beignet. Mais plus encore les enflammait la saison de l'année. Il était déjà environ la fin du printemps et commencement de l'été, toutes choses en vigueur. Et déjà montraient les arbres leurs fruits, les blés leurs épis, et aussi était la voix des cigales plaisante à ouïr, tout gracieux le bêlement des brebis, la richesse des champs admirable à voir, l'air tout embaumé suève à respirer, les fleuves paraissaient endormis, coulant lentement et sans bruit, les vents semblaient orgues ou flûtes, tant ils soupiraient doucement à travers les branches des pins. On eût dit que les pommes d'elles-mêmes se laissaient tomber en amourées, que le soleil, amant de beauté, faisait chacun dépouiller. Daphnis, de toutes parts échauffée, se jetait dans les rivières, et tantôt se lavait, tantôt s'ébattait à vouloir saisir les poissons qui, glissant dans l'onde, se perdaient sous sa main, et souvent buvait, comme si avec l'eau il eût dû éteindre le feu qui le brûlait. Chloé, après avoir trait toutes ses brebis, et la plupart aussi des chèvres de Daphnis, demeurait longtemps pêcher à faire prendre le lait et à chasser les mouches qui fort la molestaient et les chassant la piquaient. Cela fait, elle se lavait le visage et couronnée des plus tendres branchettes de pin, ceinte de la peau de faon, elle emplissait une sébile de vin mêlée avec du lait pour boire avec Daphnis. Puis, quand se venait sur le midi, Adon étaient-ils tous deux plus ardemment épris que jamais, pour ce que Chloé, voyant en Daphnis entièrement nue une beauté de tout point accomplie, se fondait et périssait d'amour, considérant qu'il n'y avait en toute sa personne chose quelconque à redire. Et lui, la voyant avec cette peau de faon et cette couronne de pin, lui tendre à boire dans sa sébile, pensait avoir une des nymphes même qui était dans la caverne. S'y accourait un continent, et lui ôtant sa couronne qu'il baisait d'abord, se la mettait sur la tête, et elle, pendant qu'il se baignait tout nu, prenait sa robe et se la vêtissait, la baisant premièrement. Tantôt ils s'entrejetaient des pommes, tantôt ils ornaient leur tête et tressaient leurs chevaux l'un à l'autre, disant Chloé que les cheveux de Daphnis ressemblaient aux grains de myrte, pour ce qu'ils étaient noirs, et Daphnis à comparant le visage de Chloé à une belle pomme, pour ce qu'il était blanc et vermeil. Aucune fois il lui apprenait à jouer de la flûte, et quand elle commençait à souffler dedans, il la lui ôtait, puis il en parcourait des lèvres tous les tuyaux d'un bout à l'autre, faisant ainsi semblant de lui vouloir montrer où elle avait failli, afin de la baiser à demi en baisant la flûte aux endroits que quittait sa bouche. Ainsi, comme il était après à en sonner joyeusement sur la chaleur de midi, pendant que leur troupeau était tapis à l'ombre, Chloé ne se donna garde qu'elle fût endormie. Ce que Daphnis apercevant, pose sa flûte pour à son aise la regarder et contempler, n'ayant alors nulle honte et disait à part soi ses paroles tout bas « Oh, comme dorment ses yeux, comme sa bouche respire, pomme, niobe, épine, fleurine, exhale un air si doux. Je ne l'ose baiser toutefois, son baiser pique au cœur et fait devenir fou comme le miel nouveau. Puis j'ai peur de l'éveiller. Oh, fâcheuse cigale, elles ne la laisseront jamais dormir si, oh, elle crie. Et d'autre côté, ces bouquins ici ne cesseront aujourd'hui de s'entre-heurter avec leurs cornes. Oh, loup plus couard que renard, où êtes-vous à cette heure, que vous ne les venez happer ? » Ainsi qu'il était en ces termes, une cigale, poursuivie par une hirondelle, se vint jeter d'aventure dedans le sein de Chloé. Pourquoi l'hirondelle ne la put prendre, ni ne put aussi retenir son vol, qu'elle ne s'abattit jusqu'à toucher de l'aile le visage de Chloé, dont elle s'éveilla en sursaut, et ne sachant ce que c'était, s'écria bien haut. Mais quand elle eut vu l'hirondelle voletant encore autour d'elle, et Daphnis riant de sa peur, elle s'assura et frottait ses yeux qui avaient encore envie de dormir. Et lors, la cigale se prend à chanter entre les tétins même de la jante pastourelle, comme si dans cet asile elle lui eût voulu rendre grâce de son salut, dont Chloé, de nouveau surprise, s'écria encore plus fort, et Daphnis de rire. Et usant de cette occasion, il lui mit la main bien avant dans le sein, d'où il retira la gentille cigale, qui ne se pouvait jamais taire, quoiqu'il la tînt dans la main. Chloé fut bien aise de la voir, et l'ayant baisée, la remit, chantant, toujours dans son sein. Une autre fois, ils entendirent du bois prochain un ramier, au roucoulement duquel Chloé, ayant pris plaisir, demanda à Daphnis que c'était qu'il disait, et Daphné lui fit le compte qu'on en a fait communément. « Mamie, dit-il, au temps passé, il y avait une fille belle et jolie, en fleur d'âge, comme toi. Elle gardait les vaches et chantait plaisamment, et tant ses vaches aimaient son chant, elle les gouvernait de la voix seulement. » Jamais ne donnait coup de houlette ni piqûre d'aiguillon, mais assise à l'ombre de quelques beaux pins, la tête couronnée de feuillage, elle chantait Pan et Pitis, dont ses vaches étaient si aises qu'elle ne s'éloignait point d'elle. Or, y avait-il non guère loin de là un jeune garçon, qui gardait les bœufs, beau lui-même, chantant bien aussi, lequel étrivait à chanter à l'encontre d'elle, d'un chant plus fort comme étant mâle, et aussi doux comme étant jeune, tellement qu'il attire à travers le bocage et emmène avec soi 8 des plus belles vaches qu'elle eut dans son troupeau. La pauvrette a donc déplaisante autant de son troupeau diminué comme d'avoir été vaincue au chanté, demandait au dieu d'être oiseau avant que retourner ainsi à la maison. Les dieux accomplirent son désir et en firent un oiseau de montagne qui aime toujours à chanter comme quand elle était fille et encore aujourd'hui se plaint de sa déconvenue et va disant qu'elle cherche ses vaches égarées. Tels étaient les plaisirs que l'été leur donnait. Mais la saison d'automne venue, autant que la grappe est pleine, certains corsaires de tir s'étant mis sur une futaie du pays de Carie, afin qu'on ne pensât que ce fussent barbares, vinrent aborder en cette côte, et descendant à terre armés de corselets et d'épées, pillèrent ce qu'ils purent trouver comme vin odorant, force grain, miel en rayon, et même emmenèrent quelques bœufs et vaches de Dorcon. Or, en courant çà et là, ils rencontrèrent de malaventure Daphnis, qui s'allait ébattant le long du rivage de la mer seule, car Chloé, comme simple fille, crainte des autres pasteurs, qui eussent pu en folâtrant lui faire quelque déplaisir, ne sortait si matin du logis et ne menait qu'à haute heure paître les brebis de Dryas. Eux, voyant ce jeune garçon grand et beau, et de plus de valeur que ce qu'ils eussent pu davantage ravir par les champs, ne s'amusèrent plus ni à poursuivre les chèvres, ni à chercher à dérober autre chose de ces campagnes, mais l'entraînèrent dans leur fûte, pleurant et ne sachant que faire, sinon qu'il appelait à haute voix à Chloé tant qu'il pouvait crier. Or, ne faisait-il guère que remonter en leur esquif et mettre les mains aux rames, quand Chloé vint qui apportait une flûte neuve à Daphnis. Mais, voyant çà et là les chèvres dispersées et entendant sa voix qu'il appelait toujours de plus en plus fort, elle jette la flûte, laisse là son troupeau et s'en va courant vers Dorcon pour le faire venir au secours. Elle le trouva étendu par terre, tout taillé de grands coups d'épée que lui avaient donné les brigands et à peine respirant encore tant il avait perdu de sang. Mais lorsqu'il entrevit Chloé, le souvenir de son amour le ranimant quelque peu, « Oh, Chloé, mamie, lui dit-il, je m'en vas tout à l'heure mourir. J'ai voulu défendre mes bœufs et ces méchants larrons de corsaires m'ont navré, comme tu vois. Mais toi, Chloé, sauve Daphnis, venge-moi, fais-les périr. Prends-la, va au bord de la mer, joue cet air que j'appris à Daphnis et qu'il t'a montré. Oh, demeurant, laisse faire ma flûte et mes bœufs sur le vaisseau. Je te la donne, cette flûte, de laquelle j'ai gagné le prix contre tant de bergers et bouviers. Et pour cela seulement, je te prie, baise-moi avant que je meure, pleure-moi quand je serai mort. Et à tout le moins, lorsque tu verras Vacher gardant ses bêtes au champ, aie souvenance de moi. » Dorcon, achevant ses paroles et recevant d'elle un dernier baiser, laissa sur ses lèvres avec le baiser la voix et la vie en même temps. Chloé prit la flûte, la mit à sa bouche, et sonnant si haut qu'elle pouvait, les vaches qui l'entendent reconnaissent aussitôt le son de la flûte et la note de la chanson, et toutes d'une secousse se jettent en meuglant dans la mer. Et comme elles prirent leur élan toutes du même bond, et que par leur chute la mer s'entr'ouvrit, l'esquif renversé, l'eau se refermant, tout fut submergé. Les gens plongés dans la mer revinrent bientôt sur l'eau, mais non pas tous avec même espérance de salut. car les brigands avaient leurs épées aux côtés, leurs corselets au dos, leurs bottines à mi-jambes, tandis que Daphnis était tout déchaud, comme celui qui ne menait ses chèvres que dans la plaine et quasi nu au demeurant, car il faisait encore chaud. Eux donc, après avoir duré quelque temps à nager, furent tirés à fond et noyés par la pesanteur de leurs armes. Mais Daphnis eut bientôt quitté si peu de vêtements qu'il portait, et encore se laissait-il à force, n'ayant coutume de nager que dans les rivières. Nécessité, toutefois, lui montra ce qu'il devait faire. Il se mit entre deux vaches et, se prenant à leur cornue avec les deux mains, fut par elle porté sans peine quelconque, aussi à son aise comme s'il eût conduit un chariot. Car le bœuf nage beaucoup mieux et plus longtemps que ne fait l'homme. Et n'est l'animal au monde qui en cela le surpasse, si ce ne sont oiseaux aquatiques ou bien encore poissons. Tellement que jamais bœuf ni vache ne se noieraient si la corne de leurs pieds ne s'amollissait dans l'eau, de quoi font foi plusieurs détroits en la mer qui, jusqu'aujourd'hui, sont appelés Bosphore, c'est-à-dire trajet ou passage de bœuf. Voilà comment se sauva Daphnis, et contre toute espérance, échappant de grands dangers, ne fut ni pris ni noyé. Venu à terre là où était Chloé sur la rive, qui pleurait et riait tout ensemble, il se jette dans ses bras, lui demandant pourquoi elle jouait ainsi de la flûte, et Chloé lui conta tout. Qu'elle avait été pour appeler Dorcon, que ses vaches étaient apprises à venir au son de la flûte, qu'il lui avait dit d'en jouer, et qu'il était mort. Seulement, oublia-t-elle, ou possible, ne voulut dire qu'elle l'eût baisé. Ah donc, tous deux délibérèrent d'honorer la mémoire de celui qui leur avait fait tant de bien, et s'en allèrent avec ses parents et amis ensevelir le corps du malheureux Dorcon, sur lequel ils jetèrent force terre, plantèrent au alentour des arbres stériles, y pendirent chacun quelque chose de ce qu'ils recueillaient au champ, versèrent du lait sur sa tombe, y étreignirent des grappes, y brisèrent des flûtes. On ouït ses vaches mugir et bramer piteusement. On les vit çà et là courir comme bêtes égarées. Ce que ces pâtres et bouviers déclarèrent être le deuil que les pauvres bêtes menaient du trépas de leur maître. Finis en cette manière les obsèques de Dorcon, Chloé conduisit Daphnis à la caverne des nymphes, où elle le lava, et lors elle-même, pour la première fois en présence de Daphnis, lava aussi son beau corps blanc et poli, qui n'avait que faire de bain pour paraître beau. Puis, cueillant ensemble des fleurs que portait la saison, en firent des couronnes aux images des nymphes, et contre la roche attachèrent la flûte de Dorcon pour offrande. Cela fait, ils retournèrent vers leurs chèvres et brebis, lesquelles ils trouvèrent toutes tapies contre terre, sans paître ni bêlée, pour l'ennui et regret qu'elles avaient, ainsi qu'on put croire, de ne plus voir Daphnis ni Chloé. Mais sitôt qu'elles les aperçurent, et que se mirent à les appeler comme de coutume, et à leur jouer du flageolet, elles se levèrent incontinent et se prirent les brebis à paître et les chèvres à sauteler en bêlant comme pour fêter le retour de leur chevrier. Mais, quoi qu'il y eût, Daphnis ne se pouvait éjouir à bon escient depuis qu'il eut vu Chloé nue et sa beauté à découvert qu'il n'avait point encore vue. Il s'en sentait le cœur malade, ne plus ne moins que d'un venin qu'il eût en secret consumé. Son souffle aucune fois était fort et hâté, comme si quelque ennemi l'eût poursuivi prêt à l'atteindre, d'autres fois faible et débile, comme d'un à qui manque tout à coup la force et l'haleine. Il lui semblait le bain de Chloé plus redoutable que la mer dont il était échappé. Bref, Il lui était d'avis que son arme fut toujours entre les brigands, tant il avait de peine, jeune garçon nourri aux champs, qui ne savait encore que c'est du brigandage d'amour.